à CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
Il n'y a pas de tempête aujourd'hui, donc elle est là.
Je savais que tu allais m'en reparler, ta barouette. Ah, mais il y en avait toute une la dernière
fois. Oui.
J'aurais voulu, mais c'est...
Non, c'est pas possible.
Impossible.
Je te dis merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
On va parler de plein de projets parce que t'en as quelques-uns.
Quelques-uns? Oh, je me laisse aller, vas-y. Où
t'as,
si tu
t'as écrit un livre qui fait suite à un mentorat que oui. t'as fait. Qui a duré quand même longtemps, 9 mois, c'est ça?
Oui, exactement, 9 mois. La première étape, en fait, ça a été de faire la conférence. Te rappelles-tu la dernière fois que je suis venue ici, je t'ai parlé de cette conférence-là, musicale, spectacle, qui est sur mon site web d'ailleurs, depuis la pandémie. On a fait une belle salle de spectacle virtuel, puis on l'a laissé là parce que ça aura amené ça de bon, la pandémie. C'est justement, les gens partout à travers le monde peuvent regarder n'importe quel spectacle à ce moment-là, quand c'est virtuel. Et puis, suivant ça, parce que bon, ça m'a pris quand même du temps à écrire cette conférence, puis d'aller, de parler de mon cheminement et tout ça. Et puis, ça en est découlé un livre. C'était comme naturel que j'aille encore plus en profondeur dans chacune des marches, parce que bon, je vous explique rapidement, j'ai choisi de descendre de la tête au cœur à travers un mentorat, mais je l'ai imaginé en descendant 5 escaliers, un escalier de 5 marches, pardon. Donc, chaque marche aborde un thème particulier. Et puis, je suis allée beaucoup plus en profondeur. J'ai partagé des outils aussi. On me demandait vraiment comment t'as fait dans cette étape-là, disons, ton mentorat pour te sentir bien. Fait que j'ai vraiment été plus en détail dans les outils et puis ce que ça m'avait fait vivre. Fait que c'est vraiment plein de vulnérabilité, finalement. Je suis allée un peu plus loin dans mon partage.
On va partir du début. À quel moment tu t'es dit « faut que j'y aille au mentorat » Parce qu'évidemment, il y a reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est déjà une grosse étape.
Oui.
Puis après ça, d'aller chercher de l'aide.
Oui, bien, ça faisait quelques années qu'il y avait quand même une certaine forme de brouillard. Puis je dirais qu'en 2016, là, c'est là où la vie m'a vraiment mis au pied du mur. J'ai une image, je dis que mes genoux ont flanché, puis je me suis assise pendant quelques mois. J'ai pas eu le choix. Je me suis rendue au bout de ce que j'étais capable de supporter moi-même avant de demander de l'aide. Puis je percevais un peu à tort demander de l'aide comme un signe de faiblesse, comme plusieurs d'ailleurs. Fait qu'on se reconnaît là-dedans, puis on l'entend, puis ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête. Puis à un moment donné, quand on le vit, c'est là qu'on prend conscience que tabarouette, on aurait pu demander de l'aide bien avant pour se sentir mieux un peu plus rapidement. Mais bon, on a chacun notre chemin. Alors moi, c'est en 2016 que vraiment la vie a fait « OK, Suzy, là ». Assis-toi, demande-toi qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi. Pourquoi cette sensation-là d'être une moitié? Parce que bon, j'avais cette sensation-là d'être la moitié de quelque chose. Il manquait des bouts à l'intérieur que j'arrivais pas à combler, que j'arrivais pas à identifier. Puis ça, je n'étais pas capable de répondre à ces questions-là moi-même. J'avais vraiment besoin d'aide extérieure, d'un regard extérieur pour m'amener puis me guider et me donner des outils nécessaires pour aller répondre à mes propres questions. Puis ça a été un super beau cadeau. C'était un 9 mois très rapide. J'appelle le fast track parce que je suis allée... T'sais, j'ai comme... Quand on a vécu la pandémie puis ils nous ont confinés, là, j'avais déjà vécu ça, moi, là. Je m'étais assise avec moi-même pendant plusieurs mois pour justement répondre à ces questions-là. Donc... voilà.
Est-ce que dès le début de ce mentorat-là, tu étais prête à plonger là-dedans ou il y avait quand même des réticences au départ?
J'avais les deux bras croisés la première fois que je l'ai rencontrée, celle qui m'a aidée.
OK, t'es fermée.
J'étais fermée, mais j'avais plus le choix. J'étais rendue au bout. Je me demandais à quoi je servais dans la vie. Je me suis rendue jusque-là. Je me suis rendue jusqu'à me poser ces questions existentielles-là. Puis je savais au fond de moi, dans mon cœur, qu'il y avait quelque chose de plus grand auquel je n'avais pas accès. Puis c'était pas vrai que j'allais abandonner sans avoir répondre à cette question-là. Puis j'ai senti que cette porte-là qui s'ouvrait à moi, d'aller me faire aider finalement, était la clé de cette question-là. Et j'avais pas tort. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en dedans. Je l'ai écouté. Puis ça a été une des premières expériences, un des premiers repères justement. Quand on écoute qu'est-ce qui vibre en dedans, on se trompe pas, tu sais.
Une des questions qui t'a été posée, c'est « Est-ce que tu envisages un jour chanter à nouveau? »
Oui.
C'était clair que c'était non.
Tellement non, mon Dieu! Ben oui, j'avais peur de tellement d'affaires, du jugement des autres, du regard, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais, et moi-même, de mon propre jugement, parce que je m'étais tellement, je veux dire, convaincue que je voulais plus faire ça dans la vie, parce que c'était rattaché à plein de petites peurs, puis bon... Fait que moi, j'étais convaincue que je n'allais pas. Mais quand j'ai eu cette question-là, je me suis dit, j'y pensais plus. Fait que c'est vraiment fascinant parce que pour moi, c'était plus là. J'étais rendue une entrepreneur,
ouais, ouais,
puis il n'y avait aucune chance.
Ouais, ouais.
Fait que quand on m'a posé cette question-là, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'elle voit que j'ai pas compris? T'sais, alors, ça m'a OK, ça a piqué ma curiosité. Puis, puis en dedans, ça m'a tellement ébranlée. Je me suis dit, oh, elle vient de toucher à quelque chose. Il faut que j'aille voir là. Hein.
À quel moment tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait puis qu'on s'en allait vers le mieux?
Dès la première question.
OK.
Ouais.
Tu sentais déjà qu'il y avait. Ça allait aller mieux, ou en tout cas, ça commençait. Là.
Sa question, c'est comme si elle avait craqué l'espèce d'armure que je me... la pression que je me mettais, le gros poids que j'avais sur mes épaules. C'est drôle, hein? Fait que cette question-là, elle m'en a posé deux. Est-ce qu'un jour, tu serais ouverte à retourner chanter? Puis est-ce que tu serais ouverte à te rencontrer entièrement? Ces deux questions-là, en fait, OK, là, elle vient de comprendre, elle vient de voir quelque chose en moi que je ne vois pas. Et clairement, avec l'effet que ça me faisait à l'intérieur, ça m'a donné l'impression d'avoir libéré le poids. Je me suis dit, ah, oh, OK, il y a quelque chose là. Je peux laisser toute cette lourdeur-là que je traîne depuis longtemps. Puis bon, on va aller voir. Ça ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas toujours le fun, mais je pense que là, tu as trouvé la bonne voie. Il faut que tu ailles. Je le sentais tellement fort. Fait que dès les deux premières questions, j'ai senti une forme de légèreté déjà.
Avais-tu toujours tout pelleté en dessous d'un tapis, genre? Tout ce qui t'arrivait, tout ce qui t'accrochait, tout ce qui te dérangeait. On va s'en occuper plus tard. Et on fait beaucoup ça dans la vie, souvent.
Ben,
fait,
pas mal.
Ça m'accroche, mais je réglerai ça une autre fois.
Oui, puis... mais tout ça, pas parce que je voulais nécessairement faire ça. Je dirais la fuite était un de mes outils, ouais. Une de mes
ça
façons...
Une armure, en quelque part.
Exactement. Ouais. De me protéger parce que je sentais que j'étais pas nécessairement outillée pour aborder... sur le fait une situation. Ouais. Ça me rendait émotive. Disons, une situation inconfortable me rendait émotive et j'avais de la misère à l'exprimer. Fait que je choisissais de me fermer. Je disais rien. J'attendais à plus tard. Mais plus tard, plus t'attends, plus il devient trop tard, plus ça fait quelque chose en dedans, plus tu fais « Ah ben là, c'est plus de temps. Ah ben OK. » Fait que t'écrases, tu mets ça en dessous du tapis pendant des années, puis à un moment donné, le tapis est un peu raboteux. Il y a quelques bosses.
Et là, le tapis, il est quand même maintenant.
Hey, il va bien. Il vole.
Après le mentorat,
oui.
De dire à mon tour d'aider ou en tout cas de partager,
oui.
Ce que j'ai vécu, c'est né comme c'était là de dire OK, ben je vais raconter ça aux gens.
Mais tu sais, bien sûr, mais c'est à force de tu sais, on me posait des questions sur mon parcours, puis à répondre à ces questions-là, la réaction des gens que je connaissais ou même des gens que je connaissais pas me disaient. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement vibrant, ça t'a pris du courage pour ça, tu sais, t'as pas envie de nous le partager. Puis là, j'ai comme ressenti que, justement, à mon tour, je pouvais redonner ce que j'avais reçu aussi des années auparavant en lisant des bouts de phrases, quelque part, des témoignages de gens qui avaient aussi peut-être fait des cheminements personnels. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas, tu sais. Puis je pense que la plus belle beauté, puis à travers ce parcours-là, ça m'a amené à toucher à la vulnérabilité, qui, pour moi, était un signe de faiblesse aussi bien avant, il y a quelques années. Aujourd'hui, je trouve que c'est la plus belle chose qui existe, d'être totalement vulnérable. C'est pas évident, ça prend du courage.
Oui, oui, ben oui.
Puis, ben, j'ai réalisé que, justement, en offrant ça, ben, ça pouvait permettre de faire vibrer le cœur de d'autres aussi. Et puis, ben voilà, je me suis plongée. Puis c'est sûr, je me suis posé plein de questions. Voyons, qui ça va intéresser? Pourquoi je fais ça? T'sais? Mais non, au final, quand j'écoute en dedans, qu'est-ce que ça dit? C'était « Oui, vas-y, Suzy ». Même si ça te rend inconfortable, ben vas-y, continue ce parcours-là. C'est la fin d'un chapitre. C'est le livre qui va émerger de ça. Donc, voilà.
Et en même temps, c'est le travail qui continue parce que ça te force à le mettre en mots.
Oui.
Donc, ta réflexion que tu as vécue à travers ce mentorat-là,
oui.
Ça te force à la pousser plus loin parce que là, oui. Ça doit être compréhensible pour les gens qui vont l'acheter puis le lire.
Exactement. Puis j'ai demandé de l'aide d'une amie pour ça. Parce que pour moi, c'était clair, tout le parcours que j'avais fait, tu sais. Mais en même temps, quand je te le partage, je peux te le partager en petits bouts de casse-tête. Fait que j'ai comme, aide-moi à mettre l'histoire.
À structurer, ouais.
Tu m'as vu dans ces années-là. Tu m'as vu avant, tu m'as vu aujourd'hui, tu me vois maintenant. Tu m'as côtoyé pendant ce mentorat-là, justement. Tu as vu les certaines étapes qui m'ont touché plus profondément. Puis certains exemples aussi. Fait que si j'en oublie, tu vas pouvoir me guider. Parce que c'était ça l'idée aussi dans le livre, c'était d'aller encore plus loin, puis de partager des exemples personnels, puis comment je me suis sentie, qu'est-ce que ces outils-là m'avaient apporté, puis qu'est-ce qui me faisait voir aujourd'hui que j'aurais pas vu par le passé. Fait que c'était d'amener une autre profondeur. Puis ça prend des exemples, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux, tu sais. Fait que oui.
As-tu eu des témoignages?
Beaucoup.
J'imagine.
Beaucoup, oui. Très ben, personnel. Tu sais,
ouais,
la
ben
musique,
c'est sûr, on brasse des choses. Fait que c'est sûr que là, tu as accès à des histoires de gens, j'imagine, ouais. Qui te racontent
Oui.
Ce qui s'est passé.
Oui, et qui utilise les outils que j'ai utilisés, que j'utilise encore aujourd'hui, qui est de respirer. C'est super simple, là.
Oui, mais on respire pas bien, nécessairement.
Pas tout. Juste en haut, on garde notre petite bédaine serrée. Parce qu'on
juste d'arrêter
pas,
pour respirer, on le fait pas
on
tant.
Le fait pas. Ben non. On le fait pas, non, exactement. Fait que ces différents outils-là qui ont été partagés, ben les gens l'ont utilisé, ont eu aussi des résultats dans leur propre vie, ils me partagent ça. Puis souvent, ce que je dis, au même titre que moi, je l'ai écrit, je l'ai relu, je l'ai relu, je l'ai relu. Tu sais mm-hmm. comment c'est, écrire un livre, on le relit souvent, on ajuste des choses, on ajoute des choses. Et pour moi, ça faisait ressentir toujours encore un petit peu plus de profondeur à chaque fois. Et puis, c'est ce que je me plais à dire justement aux autres. Puis c'est la même chose pour n'importe quoi. Quand on lit quelque chose, puis on le relit 6 mois plus tard, on dirait qu'on fait « Ah, j'avais pas compris ça la première fois. » Ou ça m'amène à un autre endroit ouais. dans ma vie. Alors, c'est ce que j'invite les gens à faire aussi, c'est de le relire d'un coup. Relisez-le dans 2, 3, 6 mois. Vous allez voir, vous n'allez pas comprendre la même chose, vous n'allez pas saisir la même chose, parce que dans votre vie, à ce niveau-là, vous allez ressentir peut-être un niveau profondeur différent. Vous allez avoir envie de faire le petit truc que je vous partage qui a passé complètement incognito à la première lecture. Et c'est vraiment... c'est une belle expérience.
Est-ce que l'étape ultime du mentorat, c'était la voix? C'était prouvons que c'est guéri?
Pas du tout. Il n'y avait pas de preuve là-dedans. Il y avait... En fait, c'était une autre étape après. C'est bon de ramener la musique, de ouais. la faire émerger, parce que plus j'enlevais des couches grises, disons, plus ce qui brillait à l'intérieur, c'était la musique qui revenait. Puis je me disais, mais non, je peux pas faire ça. Mais je me suis replongée. J'ai écrit une chanson pour la première fois. Je me suis donné le droit d'être autrice, auteur, compositrice. Comment on dit ça?
Oh, ben là, auteur, compositrice, interprète ou autrice, compositrice, interprète, ça. Dépendamment du mot que tu prends.
Je sais jamais comment le dire. Auteur, compositrice, interprète. Et puis... j'ai aimé ça, puis ça a été facile. Pis ça a été facile parce que je me suis enlevée du chemin. Ça a été facile parce que j'ai écrit qu'est-ce que je ressentais en ouais. dedans. Au lieu de me dire qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que ma chanson va tourner à la radio, est-ce que, tu sais, tous les détails techniques.
Une espèce de pression qu'on se met inutilement, quelque part.
Exact, exactement. Et puis ce premier pas-là vers la musique m'a amené à voir autre chose. Puis là, à un moment donné, à faire « Ah, ben on m'a invité à... Pourquoi tu fais pas un spectacle? » Hein? Comment un spectacle? Mais ben oui, monte ton propre spectacle, produis-toi, puis vois comment tu te sens. Parfait. Fait que j'ai loué la salle du Mirage à Terrebonne, la belle salle de Céline,
oui.
Céline et René. Et puis, j'ai fait un spectacle. Il y avait près de 200 personnes dans la salle. Puis, j'ai dit, ben voyons, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis moi, ça m'a fait revivre plein de choses. Puis là, quelques mois ont passé, puis j'ai reçu l'invitation, justement, de faire tout le processus de la voix. Fait que plus ça avançait, plus les expériences grandissaient. Et plus je me laissais juste comme surprendre par ce qui arrivait, tu sais. Ça déstabilisait par moments, bien sûr, mais... Alors, j'ai pris cette invitation-là, puis initialement, je l'ai juste comme ignorée. Parce que je me disais, ben non, je peux pas faire ça. Puis après ça, ben pourquoi je peux pas faire ça? Alors, ça m'a amené, encore une fois, avec mes outils que j'avais acquis à ce moment-là, de me poser les vraies questions, puis d'aller voir au fond, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi tu n'as pas envie de faire ça? Puis, et pourquoi tu le ferais? Pourquoi tu le ferais pas? Et puis, à un moment donné, ben c'est devenu clair dans mon cœur que j'avais envie de dire au plus de gens possible, OK, ben je pense que ça serait la porte d'entrée pour partager tout ce que je ressens dedans, puis go, je chante de nouveau. Mais alors, pourquoi pas le dire... à travers cette belle expérience-là qui est, à mon avis, encore un fast track.
Tu as dit au début de l'entrevue, j'avais l'impression d'être la moitié de quelque chose.
Ouais.
Tu es une jumelle.
Ouais.
As-tu eu beaucoup de témoignages de jumelles suite à ça qui passent par ces réflexions-là aussi?
Oui, mais contrairement à ce que j'aurais pu croire, beaucoup de frères et sœurs ou de relations d'amitié. Fait que ce n'est pas simplement dans la position de jumeau-jumelle, mais bien dans la vision qu'on se fait d'une relation avec autrui. Alors, ça peut être frère-sœur. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça de ce ressenti-là, mais avec la famille et pas nécessairement jumeau-jumelle.
OK. Et est-ce que tu as dû reparler à des gens après le livre, après tout le mentorat? Est-ce que tu as fait la paix avec des choses et qu'il fallait que tu ailles parler à des gens ou pas?
Non,
l'entourage,
ça partait de moi.
Proches, okay.
Ça partait de moi. Il n'y avait pas de OK, bon, ben, va t'excuser à
c'était
ta mère
toi
d'avoir.
Avec toi.
Exactement. C'était moi avec moi.
C'était de t'excuser à toi, finalement.
Ah, ben oui. C'était de m'aimer, moi.
Oui.
Ah ouais. Ça, c'était toute une aventure. Et à partir du moment où je ressentais l'entièreté en dedans de moi, ça amenait naturellement les gens à venir vers moi pour me poser des questions puis me demander d'aller un peu plus loin sur certaines expériences qu'on avait vécues ensemble. Je pensais à mes parents, je pensais à mes sœurs. Et là, ça apportait de la clarté puis ça amenait justement une forme de paix. Mais il n'y avait pas de... C'était pas un geste volontaire d'aller m'excuser, disons. Mais c'était de mettre des mots sur des choses que j'avais peut-être pas identifiées quelques années auparavant.
Tu vas avoir 40 ans bientôt.
Ah, pourquoi tu parles de ça? Non, pour vrai, ça me dérange pas du tout.
Est-ce que tu abordes la quarantaine de plus belle façon que la trentaine?
Complètement. Ah oui, je suis à un autre niveau dans mon cœur, dans ma vie, dans mon corps. Et ça me donne une perception de la vie complètement différente, c'est sûr. J'ai la solidité présente, alors qu'à 30 ans, pas du tout. J'étais au pic pas mal de l'inconfort.
Tu as parlé de vulnérabilité, de savoir que tout ça, ça existe dans un livre maintenant et que ton fils, un jour, aura accès à ces étapes-là, à ces réflexions-là, mais aussi à ces beaux vulnérables-là de ta vie. Est-ce que c'est un beau cadeau que tu lègues en quelque part?
Oui, bien certainement. Tu me fais penser à ça, mais oui. Parce qu'il est aussi
S'il lui arrive des choses, il aura les outils.
Oui, puis quand on lit jusqu'à la fin le bilan de ces belles beautés, ces belles choses qui m'arrivent parce que je me suis choisie moi, pas dans l'ego, mais dans mon cœur, puis que je laisse justement cette beauté-là arriver, eh bien, Édouard est le fruit de ça.
Oui.
Alors, s'il est là aujourd'hui, c'est que j'ai fait tout ce cheminement-là avec moi-même parce que j'aurais pas vu son papa, j'aurais pas croisé son papa j'aurais pas senti, en fait, que c'était l'homme pour moi, tu comprends? J'aurais pas vu ça. J'étais tellement brouillée que j'aurais pas ressenti ça. Alors, c'est plein de beauté. Merci.
On vient d'entendre du rêve à la réalité.
Oui.
Une idée que tu as eue dans la nuit.
Oui, j'appelle ça une bulle de nuit. C'est intéressant, l'image. Hein? Ben oui, pendant la nuit, après avoir nourri mon petit bébé, j'étais dans mon lit puis je dors pas tout de suite, hein, fait que c'est ça la vie de maman. Et puis je pensais à ça, puis c'était en académie, ça allait faire 20 ans bientôt, puis je me disais, il y a rien qui se passe, puis ça fait longtemps qu'on en parle, on aurait voulu se rejoindre en musique et tout. Puis je me suis mis à penser à ça, puis je me suis mis surtout j'ai connecté très fort à la raison d'être de ce que j'avais envie de faire avec tout le monde. Je me suis dit, ça serait tellement le fun parce que le public nous demande encore aujourd'hui, vois-tu encore Wilfred? Comment il va, Wilfred? Marie-Hélène, là, t'as-tu de ses nouvelles? Puis là, est-ce que vous vous voyez encore? Puis là, je me disais, hey, justement, pourquoi pas saluer le public, dire merci d'avoir été là pendant 20 ans, il y a 20 ans, mais encore aujourd'hui, puis de prendre soin de nous encore aujourd'hui, vraiment. Fait que c'était ça le souhait. Alors, je me suis mise à écrire et j'ai écrit la chanson « Du rêve à la réalité ». En l'espace de 5-6 minutes, c'était fait. Je me suis levée le lendemain matin. Ben, j'ai pas tant dormi parce que là, j'étais trop excitée. Mais je me suis levée le lendemain matin. J'ai appelé justement mon partenaire Guy dans le studio. J'ai dit, ça te tente-tu? On met une pause à la création de l'album puis on fait ce projet-là. On fait une chanson en studio. J'appelle tous mes collègues de Starac puis on... Ah, ben oui, pas de problème, j'embarque. Et j'ai appelé chacun des collègues et 12 sur 14 ont dit oui.
Mais on s'est... Est-ce que ça te faisait un pincement de ne pas être là les 14?
Non, j'ai laissé les gens libres, vraiment. Parce que tout le monde a son chemin. Je veux dire, 20 ans plus tard, il y en a plein qui ont changé de carrière. Puis c'est bien correct aussi.
Et ils sont là, ceux qui ont changé de carrière.
Oui, c'est vrai. Ils sont tous là, ceux qui ont changé de carrière. Fait que j'ai vraiment laissé les gens libres. Puis il y en avait plusieurs qui étaient un petit peu inquiets au début parce que, bon, j'ai fait, moi, confiance, puis allons-y. Ah, mais je suis pas sûre que je veux faire l'entrevue parce que, bon, je me suis dit, tant qu'à les avoir avec moi, justement, je vais répondre aux questions du public. Comment tu vas, Marie-Hélène? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Rappelons-nous des souvenirs du temps, puis justement de ces 20 dernières belles années-là. Alors, ça a été un projet hallucinant, vraiment tellement vibrant pour moi, puis de tous les rencontrer un à un. Alors, puis j'en avais quelques-uns qui étaient un petit peu plus inquiets par l'entrevue. J'ai écouté, on l'a fait. Si tu te sens pas bien, ça s'arrête là. Moi, je suis pas là pour... je suis là pour le bonheur et plein d'amour d'apporter, justement, au public cette vague d'amour-là, finalement. Dire merci, on est là pour ça, tu sais. Et puis, finalement, tout le monde a été très heureux de l'expérience. Puis je l'ai senti que ça avait apporté une paix intérieure à plusieurs, une beauté. Puis, justement, de se rappeler, parce que, bon, c'est facile aussi de se souvenir des fois des petites choses qui n'ont pas été le fun, mais de se rappeler du beau. tu sais, c'est drôle, je me faisais dire, ouais, mais c'est drôle, c'est toi qui as quitté l'académie, puis c'est toi qui nous réunis 20 ans plus tard. Ben, peut-être à cause du chemin que j'ai fait, ça m'a fait en sorte que j'ai eu cette solidité-là et ce désir-là de le faire.
Mais ce qui revenait beaucoup chez les candidats, les amis de Starac, c'était que ça vient de quelqu'un de l'interne, que ça vient de toi et non pas d'une boîte de prod, d'une machine, d'un empire qui veut repartir ça ou souligner ça. Ça venait de quelqu'un qui l'avait vécu et tout le monde était très touché de ça, de dire, ben, elle comprend ce qu'on a vécu parce qu'elle a vécu la même chose.
Exactement. Puis chacune des entrevues que j'ai faites avec chacun d'eux, puis en fait, je ne voyais pas ça nécessairement comme une entrevue parce que je n'ai pas préparé de questions.
Non, c'était une discussion.
Et c'était une jasette entre amis. Puis on s'en allait un peu n'importe où parce que, bon, on se rappelait des souvenirs. J'avais quelques questions précises que je voulais poser à chacun d'eux, mais sinon, c'était vraiment comment ça va? Comment ça s'est passé pour toi le après? Puis je pouvais tellement savoir c'était quoi. Puis au terme de ces rencontres-là, je me suis dit, aïe aïe, ils ont tous vécu ça et j'ai rien vu de ça, ou pratiquement, parce que j'étais pris dans mon expérience à moi. Et c'est fascinant, c'est fascinant. Même pour moi, ça m'a fait réaliser un paquet d'affaires, parce que je n'étais pas la seule à vivre des vagues. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont dit, nous, on t'a regardé partir, puis on avait le goût aussi de s'en aller. On te trouvait courageux. Je dis, ah oui, moi, je me trouvais lâche, mais en même temps. Alors, c'est fascinant, ça l'a vraiment, je vais dire, complété certaines choses. C'était très beau. C'est une expérience très riche qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, ou sur mon site web, si jamais vous êtes curieux. Ouais.
Vous étiez les premiers, Starac, au Québec. Ouais. Vous étiez attendus avec une brique et un fanal par l'industrie.
Toi, tu avais la brique et le fanal?
Oui, les deux. Mais moi, je vous aimais. Moi, je recevais des briques. Mais bon, c'était comment ça de vivre ça? Parce qu'évidemment, vous ne saviez pas à quoi vous attendre.
Pas en tout.
Donc, vous embarquez là-dedans.
Ouais.
Ça devient un succès planétaire. Planétaire, en tout cas, à l'échelle du Québec.
Oui.
Vous ne le saviez pas tant parce que vous étiez en dedans.
Oui.
C'était comment quand on sort les premières fois? Là, je me souviens, il y a eu le lancement de disque au Métropolis, entre autres. Il y a eu plein d'événements comme ça. C'est comment ça qu'on le voit? Puis évidemment, dans les galas, vous le voyez qu'il se passe quelque chose?
Ben oui, mais en même temps, c'est un gala, il y a des gens.
C'est un show de télé. Il y aurait eu des gens de toute façon.
On ne sait pas, il y en a combien derrière la lentille. OK, on comprend à un moment donné qu'il y en a des millions, là, tu sais, mais c'est par la suite qu'on sait ça. On ne sait pas. Fait que c'est sûr que moi, tu vois, la première fois que je suis sortie, c'était pour quitter. Pour retourner à la maison chez moi. Il n'y avait pas eu de lancement encore, il n'y avait pas eu ces différents événements-là. Alors, je n'avais pas pris conscience de l'envergure. Fait que la première fois que je me retrouve en dehors de ces murs-là, c'est pour retourner dans le parc des Laurentides en pleine nuit avec l'équipe, pour retourner à la maison et faire un paquet d'entrevues pendant des jours et voir toutes les front pages sur la table de la cuisine de mes parents. Faire, oh wow, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe? Et puis, moi, j'aimais bien aller shopper pour le plaisir. T'sais. C'était plus possible de faire ça sans me faire reconnaître à toutes les 15 secondes. Ça a tout changé complètement.
Est-ce que c'est épeurant quand ça arrive? Parce qu'évidemment, on peut pas être prêt à ça, jamais, puis pas à cet âge-là.
Non. Je pense pas qu'on est outillé non plus à vivre une grosse vague comme ça. À 19 ans, c'est capoté. Hein. C'est très, très déstabilisant. Justement, je pense que l'inconscient fait, et la vulnérabilité qu'on avait, l'insouciance qu'on avait à cette époque-là, fait en sorte qu'on a passé à travers. Puis je dis passer à travers parce que oui, c'est une vague. C'est vraiment une vague qui change complètement ta vie. Tu allais de ce côté et là, tu t'en vas de ce côté. Et tous les repères que tu avais sont disparus. Ils ne sont plus les mêmes. Il faut tout recréer. Fait que c'est sûr que des fois, ça a amené certaines frustrations. Des fois, ça a amené des peines, des angoisses, des joies. Tu sais, tout était tellement intense pendant un certain nombre d'années. Puis c'était beau, justement, de pouvoir aborder ce sujet-là 20 ans plus tard. Parce que même 10 ans plus tard, il y avait encore des fragilités à certains endroits.
Oui.
20 ans plus tard, c'était une autre histoire. Tout le monde était en paix. J'ai vraiment rencontré des collègues en paix.
Il y a eu un événement pour la sortie de la chanson au Pacini à Montréal, où j'étais. Et où il y avait quelques journalistes qui étaient là il y a 20 ans. Et la plupart des candidats étaient là.
Oui.
Et il y avait des fans aussi un peu plus tard qui venaient vous rencontrer. C'était comment vivre ça? Ensemble, c'était le premier événement de groupe depuis 20 ans.
Oui, bien, on a voulu recréer un peu ça. Tu sais, dire merci aux gens qui nous ont accompagnés il y a 20 ans, c'était de refaire un peu, de revivre un peu ça. Alors, on a fait gagner des billets via une radio à des gagnants. Donc, on a eu 20 gagnants qui sont venus nous rencontrer, prendre un petit cocktail avec nous. Et on vous a rencontré pendant des heures à jaser avec vous, puis à vous revoir, puis à vous dire comment ça va, toi aussi, 20 ans plus tard. Parce que ça faisait longtemps. Ça a été comme une grosse fête. fête, une grosse fête de famille. C'était vraiment ça notre ressenti. Puis c'était de voir, c'était beau de voir là, tu sais, François qui a pas changé, qui arrête pas de crier de joie, party, puis Émilie qui rit tout le temps. Puis c'était, on avait le sourire là, c'était vraiment beau et ça s'est transmis parce que les gagnants sont repartis le cœur. Ça était tellement content. Mais
ben oui.
Vous aussi, je pense, avez eu droit à une belle après-midi là, remplie.
Et le temps qui passe, on le voit à travers les enfants de ceux qui en avaient à l'époque, oui. La fille de Dave.
Oui.
Qui est rendu grande sans pas de bon sens.
Oui. Ah oui,
on le voit là, les 20 ans, en quelque part aussi.
Ariane, toute tatouée.
Ben oui.
C'est son père qui a tatoué.
Ben oui.
Oh mon Dieu.
Oui. Et qui ressemble à sa mère.
Oui, comme deux gouttes d'eau.
Mais il y avait ça aussi à l'époque. Il y en avait deux qui avaient des enfants.
Oui.
Il y avait Dave et Jean-François. Donc, eux, c'était une autre réalité complètement. La maison, pour eux, c'était quitter de jeunes enfants et des conjointes et un noyau familial.
Oui, complètement. Puis c'est Jean-François qui me dit justement en entrevue, il dit, je sais pas comment on n'a pas été en mesure d'organiser ça, mais il dit, on n'a pas pensé à ça. Il dit, je m'explique, tous les jours, je suis un papa à la maison parce que ma conjointe va travailler, donc je suis toujours avec ma fille, et du jour au lendemain, son papa n'est plus là. Puis elle peut y parler une minute par jour au téléphone. Fait qu'il dit, il y a eu vraiment un moment pas évident pour les familles.
Il
dit, moi, on n'a jamais vécu ça, alors ils ne savaient pas comment s'y préparer.
Toi, tu fais la paix avec Star Academy 20 ans plus tard?
Ben oui.
À quel moment tu as fait la paix?
Même si par moment, ça n'a pas toujours été facile quelques années après, j'en ai jamais voulu à l'expérience. J'ai toujours quand même compris que...
C'était avec toi qu'il y avait quelque chose.
Exactement. Puis ça fait ce que je suis aujourd'hui. Puis tu vois, je me suis toujours dit, après me sentir mieux justement avec moi-même il y a quelques années, je me disais, hey, je sais pas comment je vivrais ça, une expérience du genre aujourd'hui. Et puis c'est drôle, hein? La voix est arrivée dans ma vie. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un concours un peu similaire, qui est complètement différent, ouais. Mais un peu similaire, avec la conscience, la sagesse et l'âge que j'avais justement. Fait que j'étais comme la grande sœur dans l'équipe.
Est-ce que c'était touchant, les faces des coachs à la voix? Évidemment, il y a Garou qui se retourne, qui te reconnaît. Mais on voit Cœur de pirate, qui est super contente de te voir. Pierre Lapointe, Marc Dupré aussi. Ouais. C'était comment pour toi, ça, de voir ça? Évidemment, là-dedans, il y avait des gens que tu connaissais bien. Garou, tu le connaissais bien. Mais il y avait des gens avec qui tu n'avais jamais travaillé.
Oui.
Mais qui étaient super contents de te voir sur la scène.
Oui, ben oui. Puis Cœur de pirate, je me souviens...
Tu dis des super belles choses aussi.
Oui, c'était super touchant, son commentaire. Puis même Pierre, il dit, j'ai comme rien à t'apprendre, on va avoir du fun. Puis, ben oui, tu pourrais tellement m'apprendre de choses. Si pour moi, ma vision n'est pas pareille à la sienne. Mais c'est sûr que ça m'a fait chaud au cœur, assurément. C'est un moment, je me ferme les yeux, puis je les vois encore, puis j'ai l'écouté, fait que je me vois aussi la face avec mon petit nez qui retrousse, puis là, j'ai l'air malcommode, je suis comme « Coucou! » Tu sais, vous ne vous attendiez pas à moi, mais me voici, tu sais. Fait que c'est un très beau moment, ouais.
Tu as dit tout à l'heure que tu as mis sur pause le projet avec Guy Tourville, le temps de faire la chanson de Star Academy.
Oui.
Donc, tu es en train de faire un album.
Je suis en train de faire un album. Et d'ailleurs, quand je quitte ici, je m'en vais en studio pour poursuivre l'écriture de cet album-là. Ouais. Un album où je me donne l'autorisation. Je suis officiellement autrice, auteur, compositrice, interprète. Dans l'entièreté des pièces, j'ai une reprise, mais sinon, j'ai 12 pièces originales. C'est mon plan.
C'est ton plan parce qu'on est encore là-dedans. On est encore dans la création. On n'est pas dans l'enregistrement encore.
J'enregistre les maquettes quand même parce que la manière dont je travaille avec Guy, c'est qu'on va s'asseoir ensemble. Moi, je sais où je m'en vais. J'ai mes sujets, je sais où je vais. Et puis, on s'assoit ensemble. J'arrive avec des bouts de mélodie, des choses que dans mon cellulaire, c'est plein de nananana, là, tu sais.
Du yaourt, comme on appelle.
Ouais. Et puis, je lui partage ça. Je lui partage des sons aussi de chansons que j'aime. Puis, on mélange tout ça. Puis, généralement, en une rencontre, on part avec une maquette. Alors, j'enregistre en même temps la maquette.
Okay.
C'est ça qui est le fun. Sur place, on joue de la guitare comme une vraie session studio que j'avais en tête depuis toujours, là, finalement. Donc, c'est très efficace pour moi de faire ça, puis d'être dans l'univers, de baigner en studio pour créer, c'est important. C'est sûr qu'avec un petit bébé à la maison, c'est moins facile là, d'écrire des chansons.
C'est sûr.
À part la nuit.
Oui, c'est ça.
Entre deux boires.
Oui. Et j'imagine que ça va être très personnel, parce qu'il y a un bout de réflexion qui a été fait, un énorme bout de réflexion qui a été fait dans les dernières années. Donc, il y a des thématiques, des sujets. Il y a quelque chose qui est ouvert en toi. Là.
Oui, et c'est des sensations, des sentiments, des sensations auxquelles j'avais plus accès, comme l'amour. L'amour, c'est le premier thème, bien sûr, de ma première chanson et la chanson sur l'album. En fait, si on ne change pas l'ordre là, hein, pour l'automne prochain, c'est une chanson qui est dédiée à mon fils, qui s'appelle « Lettre à mon ange » et c'est vraiment très touchant.
C'était comment, ça, d'écrire cette chanson-là? Parce qu'elle est faite, elle, si je comprends bien.
Ah oui, elle est faite.
C'est comment?
Ben, en fait, c'est une super belle expérience.
Quelque chose de touchant,
là-dedans. Je m'en allais, j'avais planifié faire complètement autre chose. Puis je suis partie le matin, j'ai eu le plus beau cadeau. Ma mère est venue passer quelques mois à la maison à la fin de l'année dernière pour me donner l'opportunité, justement, d'aller une ou deux journées par semaine en studio. Fait que j'avais à vivre cette première expérience-là de laisser mon bébé pour la première fois. Pas évident. Et puis, je suis partie en voiture. Je savais qu'il était... Puis mon chum était là avec ma mère. Donc, tout était parfait. Mais maman, dans mon cœur de maman, j'étais fébrile. Puis je m'en allais en studio. Puis je me demandais si je faisais le bon choix. Tu sais, puis c'était trop tôt et tout. Puis on se pose plein de questions. Puis je suis venue émotive. Donc, j'ai versé quelques larmes. Puis je suis arrivée en studio dans cette énergie-là, dans cette vulnérabilité-là. Puis je me suis mise à partager mon histoire, justement, avec Guy. Et puis, j'ai dit, c'est quoi? Donne-moi donc 5 minutes encore. Fait que je suis partie de l'autre côté du studio. On est comme deux endroits séparés. J'ai fermé les portes. Et en l'espace de quelques minutes, j'avais écrit « Lettre à mon ange ». Donc, c'est une chanson très touchante, guitare-voix, qui nous amène, où je lui dis que depuis qu'il est arrivé, ben, ma vie, elle a changé, ma vision. Mais c'est vraiment très beau, ouais.
Est-ce qu'avant d'entrer en studio, il y a eu la réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire, où je m'en vais musicalement, qu'est-ce que je veux pour ce disque-là?
Pas tant avec grande certitude. Là. Tu sais, c'est vraiment une exploration, puis le plaisir de créer.
Ouais.
Je pense que dans la beauté, justement, de s'enlever du chemin quand on crée, c'est de ne pas arriver avec des points trop précis. C'est juste de laisser émerger qu'est-ce qui est là. Parce que si tu vois, c'est comme ce matin-là, j'étais arrivée avec « Mais non, c'est pas ça mon plan. J'avais dans l'idée de faire telle chose, mais j'aurais peut-être pas écrit jamais la chanson. »
Ou elle n'aurait pas été écrite comme ça, parce que là, t'étais à fleur de peau, t'étais dans l'émotion directe.
Voilà. Fait que donc, elle a cette couleur-là, elle a ce son-là, elle a cette... Bien sûr, elle est toute petite, elle est toute intime, mais il n'y a pas de... c'est pas écrit, là. OK, Suzy, elle va chanter ça, elle va faire ça, ça va être musicalement, ça va ressembler à ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On crée, on s'amuse, puis là, on va le plus loin qu'on peut dans cette création-là. Puis c'est ça que j'avais envie de vivre pour la création de cet album-là.
C'est toi la productrice, j'imagine?
Oui.
Est-ce que c'est compliqué, ça, de gérer tout ça, de dire, bien, il y a l'artiste, il y a celle qui va se laisser inspirer, puis l'autre bord, il y a celle qui va compter?
Oui. Puis qui pousse l'artiste à faire
« OK, là, cher, là,
ça commence à faire, il faut que tu y ailles. » Ben oui, c'est plusieurs volets, mais tu sais, c'est ça justement, mon parcours m'amène à avoir un bagage très rempli au niveau de l'entrepreneuriat, puis justement du niveau artistique aussi, puis c'est comme tout ça, c'est mergé, je vais dire, pardonnez-moi l'expression, mais dans l'entièreté de qui je suis, tout ça cohabite dans ce que je fais, fait que c'est un volet, je veux dire, je vois, faut que je vois l'entièreté du plan, disons, puis après ça, bon ok, là, je suis l'artiste qui crée, aujourd'hui, je m'en vais en studio pour recréer. Mais après ça, la productrice retourne à la maison puis calcule, comme tu dis.
Tu as parlé de l'automne, donc est-ce que tu t'es mis un deadline pour dire qu'il faudrait qu'on ait fini autour de cette date-là?
C'est sûr que mi-été, là, fin d'été maximum, l'album est fini d'enregistrer. Fait que ça, c'est ce que je sais. Après ça, le reste, on va voir encore. La date officielle n'est pas arrêtée pour la sortie, mais c'est l'automne. C'est vraiment... C'est là que je ressens que ça va être fini. Ouais.
Est-ce que la fébrilité sera différente, t'as l'impression? Parce que là, tout va partir de toi, puis ça va être autre chose.
Assurément. Je suis certaine qu'il va avoir un autre niveau de vulnérabilité. Parce que là, c'était un livre. Il y avait la conférence, il y avait le livre, il y avait justement le partage de mon parcours. Mais là, c'est à un autre niveau, c'est en musique. Alors, c'est sûr qu'il va avoir un autre niveau de profondeur.
Vas-tu revenir m'en parler?
Hey, avec plaisir.
Super.
Mais pas l'hiver. Fais-tu m'appeler autre que l'hiver? Comme ça, je vais être sûre d'aller.
On va faire le show dans le sud.
Hey, bon, Walt Disney. Hein, tu m'en parlais tantôt, t'aimes ça?
L'émission à Walt Disney, dans notre château.
Hey, bon, 375e
merci,
en passant. C'est aujourd'hui que ça se passe.
Hein, oui.
Bravo.
Et merci d'avoir été là.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup. Merci aux gens qui se sont déplacés.
Merci.
D'ailleurs, tu as amené des livres si les gens veulent en acheter. Ouais. Sinon, il est disponible un peu partout.
Un peu partout, en librairie, en magasin. Sinon, sur mon site web aussi, suzyvilleneuve.com. Sur mon site web, c'est vraiment un univers où tout se retrouve. Donc, si vous avez envie et vous êtes curieux, allez visiter ce qui se passe là-dedans. Vous avez le projet Star Academy 20 ans plus tard, justement. Vous avez le livre, vous avez les conférences, vous avez tout ça. Donc, voilà.